Inter, le 18-20.
On n'avait pas vu cela en France depuis 18 ans. En septembre dernier, la production d'électricité d'origine nucléaire a atteint un plus bas historique. La faute à nos vieilles centrales, dont 20 réacteurs sur 58 au total, sont aujourd'hui à l'arrêt pour maintenance. Exemple hier encore en Ardèche, où EDF a de nouveau reporté le redémarrage du réacteur nucléaire de Cruas. Quatrième report en une semaine. Alors faut-il y voir une bonne nouvelle, parce que contrôle de plus en plus draconien et donc une sécurité accrue? Ou au contraire, est-ce une inquiétante preuve de la vétusté de notre parc nucléaire et du coup de sa dangerosité? Que penser également de la qualité de ces contrôles? Qui contrôle qui dans le nucléaire français? Peut-on réellement avoir confiance? Et puis bien sûr, la question pratique, récurrente avec le froid qui arrive, va-t-on manquer d'électricité? On pose toutes ces questions ce soir et l'on attend évidemment toutes les vôtres, vos commentaires, dès maintenant au 01 45 24 7000. Sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite au standard de France Inter, c'est Xavier de Dunkerque qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Xavier, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Oui, écoutez, moi j'appelle de Dunkerque, donc Dunkerque, troisième port de France, une agglomération de 200 000 habitants. Et dans cette agglo, il y a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, Gravelines, avec 6 réacteurs. Et 4 réacteurs sont actuellement à l'arrêt. Et ils ne sont pas tous à l'arrêt pour des simples révisions. Il y a le réacteur 1 qui est en réparation, enfin qui doit être réparé pour un problème sur le fond de cuve. Et donc ma question, elle s'adressait aux responsables locaux, préfectures, élus, parce que de plus en plus de gens de l'agglomération, comme moi, commencent à se dire que l'accident majeur est possible. Et en fait, on ne sait pas comment on devrait agir, ce que l'on devrait faire en cas d'accident majeur. Alors, on a bien un S3PI. On a bien un site qui s'appelle paspanique.fr et c'est pas une blague. Et donc j'aimerais savoir en fait comment les élus, comment les responsables locaux peuvent rassurer la population et surtout leur indiquer ce qu'il faudrait faire en cas d'accident, puisqu'on est quand même dans une agglomération, avec un site Céveso, un terminal méthanier tout proche et une autoroute internationale A16 très chargée. Donc je vous laisse imaginer les problèmes en cas d'accident grave.
Eh bien, merci Xavier de cette première question. On va tenter d'y répondre, alors pas avec des élus ou des responsables locaux, mais avec Philippe Sassain. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du parc nucléaire en exploitation d'EDF. Et bonsoir également Benjamin Dessus.
Bonsoir.
Ingénieur et économiste spécialiste de l'énergie, fondateur de l'association Global Chance. Peut-être avec vous, Philippe Sassain, pour répondre à Xavier. D'abord, l'accident majeur est possible. On le sent inquiet, hein, Xavier?
Bon, d'abord, peut-être sur Gravelines, préciser que ce sont 3 réacteurs qui sont en fonctionnement et 3 qui sont à l'arrêt actuellement. Ceux qui sont à l'arrêt, effectivement, 2 sont en période de, enfin, 1 est en période de redémarrage et le deuxième bientôt. Sur la prévention, finalement, c'est la question que pose l'auditeur sur la prévention des accidents autour des centrales nucléaires et les dispositions à prendre. Il y a autour de chaque centrale nucléaire ce qu'on appelle un plan particulier d'intervention qui est sous la responsabilité du préfet. Et il y a des exercices qui sont faits régulièrement autour de chaque centrale. C'est le propre du nucléaire de faire des exercices internes à nos organisations, mais également externes, y compris avec les pouvoirs publics et parfois avec les populations, et qui permettent effectivement de s'organiser, d'organiser les secours qui sont bien sûr de la responsabilité des préfectures et des services de l'État locaux.
Est-ce suffisant? C'était un peu quand même ce qu'on entendait dans la question de Xavier. Benjamin Dessus, est-ce suffisant ces exercices en matière de prévention?
En fait, je pense que EDF a découvert récemment, et tout le monde a découvert récemment, la possibilité d'avoir un accident majeur en France. Personne n'y croyait jusqu'à Fukushima. Donc, on est en retard sur toutes ces affaires. Et je pense qu'il faut revoir ces plans, qu'il faut revoir l'information du public, en ayant dans la tête que l'accident majeur est possible. Alors que dans la tête des gens d'EDF, dans la tête des préfets, dans la tête des élus, finalement, c'était pas possible.
Alors,
ça change les choses.
Dans votre tête à vous, Philippe Sassain, directeur du parc nucléaire d'EDF, on y pense? On se dit que c'est possible ou pas?
Mais écoutez, moi, je peux témoigner de l'intérieur, hein, puisque ça fait à peu près 35 ans que je suis maintenant donc dans le parc nucléaire, en ayant commencé comme ingénieur chargé de la sûreté nucléaire dans la centrale où j'étais et que j'y pratique. Et je peux vous dire que depuis tout ce temps-là, on s'entraîne effectivement et on se prépare à beaucoup de scénarios d'accidents. Il y a beaucoup de scénarios d'accidents qui ont été créés à la conception de nos centrales, qu'on a enrichis au fur et à mesure avec le retour d'expérience, y compris celui bien sûr de Fukushima. Et donc l'entraînement en cas de crise et en cas d'incident ou d'accident est quelque chose d'important dans la culture de sûreté de tous nos exploitants. On a des simulateurs, on peut prendre l'exemple des pilotes d'avion qui finalement passent du temps à s'entraîner en cas d'accident. Chacune de nos centrales est équipée d'un simulateur pleine échelle et l'ensemble de nos opérateurs font plusieurs semaines par an d'exercice et donc avec des situations incidentelles et accidentelles. Donc l'entraînement en cas d'accident est quelque chose d'important et c'est une ligne de défense très importante dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Exercice, entraînement, simulation, tout cela je l'entends bien, mais je vous livre par exemple la question de Jean-Michel à Orsay. En quoi consistent les contrôles complémentaires demandés sur certaines pièces à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire? Les contrôles.
Alors, les contrôles, on en fait bien sûr, tout à l'heure vous évoquiez le nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, qui est un peu plus élevé que d'habitude, mais finalement guère plus élevé que les années précédentes, il y en a 4 ou 5 en plus en moyenne. Il est normal d'arrêter un réacteur chaque année ou tous les 18 mois, suivant le type de réacteur chez nous. Et quand on arrête un réacteur, c'est bien sûr pour recharger le combustible, mais c'est surtout pour faire des contrôles, de la maintenance et des contrôles. Et on passe énormément de temps à contrôler notamment la qualité des matériaux, des contrôles métallurgiques sur tous les composants importants de nos réacteurs. Et c'est ce que l'on fait en ce moment sur un certain nombre de nos générateurs de vapeur. On fait des contrôles supplémentaires qu'on a initié depuis le mois d'avril de cette année, et donc on passe au crible tous les matériels concernés, de façon à s'assurer qu'il n'y a aucun défaut métallurgique sur ces réacteurs et sur ces composants.
Benjamin Dessus, on reste sur cette notion de contrôle. On a vu, il n'y a pas si longtemps, des normes techniques non respectées sur des matériels critiques pour la sûreté. On a vu des certificats même falsifiés pour obtenir le feu vert des autorités. Ça va loin quand même. Ils sont où les contrôles?
Mais je trouve qu'on est dans une situation très, très étonnante et très nouvelle pour plusieurs raisons. Vous venez de parler de falsification de documents par Areva. C'est très grave pour la confiance que peuvent avoir les Français dans le système nucléaire. C'est d'autant plus grave qu'on ne voit pas EDF attaquer Areva sur ces problèmes-là, mais plutôt le soutenir à Areva. Autrement dit, il n'y a pas à l'intérieur du système nucléaire français de moyens d'autocontrôle. On ne voit pas le gouvernement s'en occuper non plus. Ça fait pas la une du monde. Si vous voulez, ce genre de truc arriverait en Allemagne, en Italie ou en Espagne, ça ferait la une des journaux pendant 8 jours.
On en parle quand même.
On en parle, mais on ne parle pas. C'est pas la une. Hein. Et ça a mis du temps à sortir. Donc, manifestement, il y a un problème. On est devant quelque chose qui ressemble au Dieselgate et il ne se passe pas grand-chose. Bon. En termes de confiance, j'entends. Et sur un problème qui est plutôt plus grave que le Dieselgate. Bon. La deuxième question, elle est qu'on est en train de faire des contrôles à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pas EDF qui les a déclenchés, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit on arrête 5 réacteurs pour les regarder de près. C'est effectivement des problèmes de métallurgie, de carbone, de trop de carbone dans une cuve de l'EPR et d'autre part dans une série de générateurs de vapeur fabriqués par les Japonais en particulier. Bon, il faut faire ces contrôles. Si la densité de carbone est supérieure à une certaine limite, les hypothèses qu'EDF a fait pour le redémarrage ne sont plus possibles. À ce moment-là, l'ASN dira « j'arrête ces réacteurs ». Alors, il y a un problème qui est majeur et dont on ne parle jamais, qui est le suivant. C'est que dans les scénarios d'accident possible des réacteurs, ni la cuve, qui est actuelle de l'EPR, une cuve, sur lequel on a des doutes, ni les générateurs de vapeur, sur lesquels on a également des doutes, ne sont supposés pouvoir se rompre. C'est ce qu'on appelle l'exclusion de rupture. Et ça, c'est très grave, parce qu'on s'aperçoit que les scénarios d'accident dont on dispose ne prennent pas en compte la possibilité de rupture, par exemple, d'un générateur. Or, la rupture d'un générateur, j'aime mieux vous dire que ça fait des dégâts considérables et il y a toutes les chances que ça conduise à un accident majeur.
Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Sassaigne?
Alors d'une part, la première chose, c'est que tous les contrôles que l'on fait actuellement et la distinction de tous les éléments qui sont à contrôler, c'est bien EDF, en liaison avec Areva, qui les a fournis l'autorité de sûreté nucléaire. Nous, notre responsabilité à EDF, c'est d'exploiter en toute sûreté nos réacteurs. Et ça, quelles que soient les conditions et quoi qu'il arrive. C'est la première responsabilité de l'exploitant nucléaire. Et donc nous avons, au titre du retour d'expérience, déterminé qu'effectivement un certain nombre de composants pouvaient avoir des anomalies, même s'ils ont été totalement validés quand ils ont été installés il y a 10 ou 20 ans. Et donc on a donné à l'autorité de sûreté nucléaire la liste de ces composants et nous nous sommes engagés à faire des contrôles sur donc les 18 réacteurs concernés, puisqu'il y en a 18 qui sont concernés. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il y en a 6 qui ont démarré, puisque à l'issue des contrôles, on a fourni à l'autorité de sûreté nucléaire les dossiers qui ont permis de redémarrer en toute sûreté, sinon je pense que l'autorité de sûreté n'aurait pas donné son aval. Les 12 suivants, qui sont à l'arrêt ou qu'on va contrôler dans les 3 mois, là aussi on a proposé à l'ASN d'aller contrôler un peu plus vite les derniers qui ne sont pas encore arrêtés, ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a mis dans sa décision. Donc c'est une décision totalement concertée avec nous, et donc ces contrôles-là sont tous en cours. On a fourni depuis le 7 octobre, donc il y a à peu près un mois maintenant, un dossier complet à l'autorité de sûreté nucléaire qui, pour nous, montre qu'il n'y a strictement aucun problème de sûreté sur ces réacteurs et que les composants tiennent à toutes les circonstances compliquées de choc thermique ou autre en cas de notamment d'accident. Ce dossier maintenant est en cours d'instruction par l'autorité de sûreté nucléaire. On attend le retour, on répond aux questions qui nous sont posées. Notre objectif étant de redémarrer ces réacteurs avec cet aval de l'autorité de sûreté nucléaire.
On repart au standard où Emilio nous appelle de Paris. Bonsoir Emilio, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Écoutez, je voudrais intervenir pour justement ces problèmes de métallurgie. J'ai compris qu'il était question de faire des tests pour se rendre compte de la teneur en carbone qui fragiliserait le matériau. Je voulais savoir, par rapport aux pays étrangers, est-ce qu'on rencontre des situations comparables et éventuellement, les normes qui sont appliquées dans les centrales américaines ou autres, sont-elles aussi sévères ou moins sévères que celles qui sont appliquées en France? Car j'ai compris, en lisant un peu la presse, que ces critères ont été réévalués ces derniers temps dans le domaine de la métallurgie par les normes présentes à appliquer à partir de l'EPR, par exemple.
Eh bien, on va tenter de vous répondre. Merci, Emilio. Benjamin Dessus.
À la vérité,
les mêmes normes chez les voisins?
Oui, les normes sont internationales maintenant, surtout après Fukushima. J'ai l'impression que
Monsieur EDF n'a pas l'air d'accord du tout. Hein.
Bon, aux États-Unis, en Allemagne, etc., les normes sont du même genre. Ça ne veut pas dire que les Russes ont les mêmes normes que nous, bien entendu, hein, mais ou les Chinois. Mais globalement, et surtout après Fukushima, il y a une certaine tendance à la normalisation de ces règles.
Philippe Sassaigne.
Oui, il y a des différences dans les réglementations dans les différents pays, y compris dans le domaine du nucléaire. C'est vrai, je crois, dans tous les domaines, mais c'est également vrai dans le domaine nucléaire. Il y a, c'est vrai, en Europe, une tendance à la normalisation, qui est d'ailleurs, je pense, à l'instigation de notre autorité de sûreté nucléaire en France. Ceci étant, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a des contrôles que l'on fait actuellement en France qui ne sont pas faits dans d'autres pays. Et d'ailleurs, il y a un organisme américain qui est chargé du retour d'expérience technique sur le nucléaire, qui s'empare actuellement juste maintenant du sujet pour regarder au plan international qu'est-ce qu'on peut tirer finalement des contrôles qui sont faits actuellement en France sur le plan plus largement et dans les autres pays. Donc ce retour d'expérience que l'on est en train aussi d'enrichir en France va, je pense, aussi contribuer donc à éclairer la technique et donc le sujet de partout dans le monde.
Énormément de questions justement autour de cette notion de contrôle. Lucie de Toulouse, par exemple, nous écrit par courriel l'autorité de sûreté nucléaire fait environ, vous nous direz si c'est vrai, 2000 inspections par an, nous dit Lucie. Inspection annoncée ou inopinée, est-ce suffisant?
Nous sommes l'industrie la plus contrôlée en France, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le sujet, ce qui est normal puisque nous sommes une industrie particulière, une industrie à risque, où nous devons la transparence, nous devons la sûreté de nos installations au quotidien, c'est extrêmement important. Il y a en France une autorité de sûreté, je crois, bien exigeante, indépendante, qui fait ce travail. Mais au-delà de ça, je dois dire aussi que nous-mêmes, exploitants, faisons des contrôles en permanence et tous les jours. Et nous avons des dispositifs de contrôle interne également qui sont extrêmement importants. La qualité dans le nucléaire repose effectivement sur de la rigueur, sur des procédures, sur du contrôle et sur un contrôle externe puissant.
Non mais que le nucléaire soit l'industrie en France la plus contrôlée, le monde est d'accord. La question de Lucie, c'est est-ce suffisant, Benjamin Dessus ?
Alors, manifestement, je ne sais pas si le nombre d'inspections est suffisant, mais le personnel à la disposition de l'ASN, de l'avis du patron de l'ASN, n'est pas du tout suffisant pour arriver à répondre à l'ensemble des questions qui sont posées, non seulement les inspections elles-mêmes, mais le travail que ça donne derrière. Après une inspection, il y a un travail considérable de mise en forme des résultats d'études, d'hypothèses, de calculs à faire, qui sont faits avec l'IRSN, l'Institut de recherche sur la sécurité nucléaire. Mais Jean-Pierre Chevet se plaint vis-à-vis du gouvernement de ne pas disposer du tout d'assez de personnel pour travailler. Et donc de retarder, si vous voulez, des redémarrages, des conclusions de ces études, parce qu'il manque de personnel. Alors je crois qu'il a eu 30 personnes, mais il en demande 200. Enfin.
Philippe Sassaigne.
Moi, ce qui me semble important de dire aux auditeurs, c'est que la sûreté nucléaire, c'est avant tout la problématique et la responsabilité de l'exploitant nucléaire. Donc, autour de nos centrales nucléaires, nous sommes 50 000 à peu près à EDF et donc dans les entreprises prestataires qui travaillent tous les jours sur nos sites nucléaires. La responsabilité première que nous avons, c'est celle, effectivement, de la sûreté de nos réacteurs. Il est important qu'il y ait un contrôle et indépendant, donc opéré en France par l'autorité de sûreté nucléaire. Mais moi, j'assume totalement cette responsabilité. Tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien sont là pour assumer pleinement cette responsabilité devant les pouvoirs publics, mais aussi devant tous les Français, devant tous les citoyens, parce que nous ne pouvons pas exploiter du nucléaire en France, il n'est pas sûr.
Manque d'effectifs, disait Benjamin Dessus, vrai, faux ? Manque d'effectifs.
Ah, c'est la question qu'il faut poser à l'autorité de sûreté nucléaire, je pense. Je ne répondrai pas à leur place.
Bon d'accord, on ne répond pas à la place de l'autorité de sûreté nucléaire.
Benjamin Dessus. C'est vrai qu'EDF essaye d'avoir la sûreté et la sécurité maximum sur ses réacteurs. Mais à partir du moment où on est jugé parti, c'est un problème, si vous voulez. Je reprends l'histoire d'Areva. Areva falsifie des documents. Finalement, il se passe rien entre EDF et Areva. Et Areva est le sous-traitant d'EDF. C'est difficile pour EDF, qui est en train d'acheter Areva. Vous voyez, on est dans un système tel que la solidarité interne peut avoir des conséquences sur l'objectivité ou sur les habitudes. Donc il est d'autant plus nécessaire d'avoir une autorité de sûreté nucléaire indépendante, puissante.
Philippe Sassaigne.
Je crois qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'effectivement, il y a eu des choses irrégulières qui ont été faites dans les fabrications d'Areva dans les années passées. Et donc, à EDF, on est tous clairement engagés pour que toute la lumière soit faite. Et d'ailleurs, on a poussé aussi Areva à cela, que toute la lumière soit faite sur les doutes qu'on peut avoir sur tel ou tel dossier. On a déjà traité sur le fond beaucoup des dossiers qui contenaient des irrégularités. À l'arrivée, on a trouvé un écart sur 100 qui méritait effectivement un approfondissement. Les autres ont été dédouanés et validés aujourd'hui avec l'autorité de sûreté. Il faut absolument qu'on continue, ce retour sur le passé pour être certain qu'effectivement les irrégularités ont toutes été traitées. Ça, on s'y engage et c'est absolument ce que l'on doit faire.
Bonsoir Daniel, nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous, voilà, j'ai travaillé avec une association qui s'intitule Virage Énergie Centre Val-de-Loire et comme son nom l'indique, c'était un scénario sur la transition énergétique et nous nous sommes aperçus à cette occasion que l'ensemble des citoyens avaient une grande confiance dans la sûreté nucléaire. Par contre, ils étaient quand même très réceptifs et très sensibles au coût du kilowattheure. Alors, dans la question que vous avez posée tout à l'heure en introduction, vous dites, est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver ? Non, je pense qu'on manquera pas d'électricité. Seulement, étant donné notre approvisionnement à l'étranger, le coût risque d'être assez élevé. Alors, ma question est très simple, et très compliquée à la fois. Dans un scénario tendanciel qui prolongerait notre production électronucléaire actuelle, quel serait le coût du kilowattheure en 2020, en 2030, voire en 2040, pourquoi pas ? Voilà, je vous remercie.
Mais merci de cette excellente question, Daniel. Avant de parler du coût, Philippe Sassaigne, sur ce risque de pénurie, oui, fondé, pas fondé ?
Globalement, notre objectif à nous, EDF, c'est bien sûr de produire en fonction des besoins du réseau. Ceci étant, il y a un organisme qui s'appelle RTE, une société qui s'appelle RTE, qui a en charge l'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc, c'est bien à eux de prendre position sur ce sujet. Nous, à EDF, nous n'avons pas que du nucléaire. Nous avons des moyens de production nucléaire, thermique, hydraulique et énergie renouvelable.
Mais le nucléaire, c'est quoi? C'est 75% de l'électricité consommée.
70 à 75%. Ouais. Et donc, nous avons comme objectif, et quand le nucléaire est moins présent, comme ça va être, c'est le cas en ce moment, ben on peut démarrer d'autres moyens qui viennent se substituer, notamment du thermique, par exemple.
Mais avec un tiers des réacteurs à l'arrêt, on fait comment?
J'ai indiqué tout à l'heure que dans un 2 novembre, comme aujourd'hui, quand je regarde moi les 7 dernières années, nous avons entre 14 et 15 réacteurs à l'arrêt en moyenne. Aujourd'hui, nous en avons 19, 2 ou 3 qui doivent redémarrer dans les jours qui viennent. Donc globalement, on est en écart, mais aujourd'hui, on sait compenser, EDF sait compenser. Et puis bien sûr, RTE dispose d'autres moyens, les interconnexions, qui vont faire en sorte qu'effectivement, on va assurer cet équilibre entre l'offre et la demande.
La deuxième question, enfin la principale question de Daniel, c'est le coût du kilowattheure. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Le coût du kilowattheure, si je réponds sur la partie nucléaire, et globalement, je pense que sa question était beaucoup plus globale, ça dépend d'énormément de paramètres. Donc effectivement, quand on se projette à l'horizon 2020-2030, quelle est la demande d'électricité? Quels sont les moyens de production? Donc simplement, on peut apporter une réponse. De dire que globalement le mix énergétique dans un pays, et c'est ce que prévoit la loi de transition énergétique en France, il doit être composé de plusieurs composantes, hein. Donc la France vise une électricité au maximum décarbonée, c'est ce qu'on a actuellement en France, avec du nucléaire, de l'hydraulique, du renouvelable essentiellement, et donc c'est certainement ce qu'on aura demain, et donc le coût dépendra de l'équilibre qu'on y mettra, des coûts de production des différentes filières. Et si je reviens sur le nucléaire, aujourd'hui, ce coût de production, il est à un bon niveau sur le parc existant. La Cour des comptes en a attesté. Et y compris avec les investissements que l'on a à faire dans les années qui viennent, ce coût est tout à fait maîtrisé pour le nucléaire et tout à fait compétitif dans le panorama que je vous ai donné.
Alors, je peux vous assurer qu'il y a une foule d'auditeurs qui ne sont absolument pas d'accord avec vous et qui trouvent que le coût de production est gigantesque, qu'on investit beaucoup trop dans l'industrie nucléaire. Benjamin Dessus, sur cette notion de coût.
Mais je voudrais d'abord revenir sur l'histoire de l'équilibre RTE, etc. S'il y a des problèmes avec le parc nucléaire actuel, si l'autorité de sûreté ne donne pas l'autorisation à EDF de relancer les réacteurs arrêtés, parce qu'il y a des problèmes sur les générateurs de vapeur. À ce moment-là, on a effectivement une pénurie importante. Aujourd'hui, on est à peu près capable de faire 42 gigawatts de nucléaire, et dans les périodes les plus fastes, on en faisait 58. Vous voyez, il y a un écart très important. Donc le jour où il fait froid, on aura un problème. Alors on dit, c'est pas grave, on va importer. Alors, on va importer de l'électricité. Ça sera de l'électricité charbon, parce que l'électricité européenne, c'est essentiellement du charbon. Et après ça, on fera un discours, EDF continuera à faire un discours en disant que le nucléaire, c'est formidable, parce que ça fait pas d'effet de serre. Bon, effectivement, il aura raison, parce qu'on ne compte pas l'électricité achetée à l'étranger dans les comptes qu'on fait d'effet de serre. Bon, voilà. Non, mais ça pose quand même un sacré problème. Bien. Donc, si... Effectivement, il y a des problèmes sur le parc nucléaire de l'ordre d'un tiers du parc qui fonctionne pas. Ça pose vraiment un problème à la France. Pourquoi? Parce qu'on a 75% de notre énergie électrique qui est nucléaire, ce qui est probablement beaucoup trop. Alors maintenant, en termes de coût, on sait que le PR, ça va être autour de 120-125 euros le mégawattheure, c'est-à-dire beaucoup plus que tout le reste. C'est d'ailleurs le prix auquel ça va être vendu aux Anglais. Et que la réhabilitation des moyens actuels, qui est évidemment contestable parce qu'on voit bien qu'on a pas mal de problèmes déjà sur le parc existant qui a 30 ans d'âge à peu près, et que si on le prolonge, on risque d'avoir des problèmes et de sûreté et d'investissement. Ces investissements sont considérables et conduisent quand même à des coûts du kilowattheure ou du mégawattheure qui sont beaucoup plus élevés que les coûts actuels.
On reste sur cette notion d'investissement. Bonsoir Guillaume, vous nous appelez de Toulouse, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, ma question, c'est comment se fait-il que EDF ait investi aux alentours de 50 milliards dans le grand carénage post-Fukushima, dans des centrales qui ont 30 ans d'âge, donc dans 10 ans, on leur aura déjà prolongé leur vie. Moi, dans 10 ans, notre parc nucléaire deviendra obsolète. On a un EPR qui ne fonctionne toujours pas. Avec quelle énergie on fournira l'énergie de demain?
Merci Guillaume. Et à votre question, j'ajoute celle de Francis de Sainte qui nous dit « N'est-on pas arrivé à un seuil de fin de vie de nos réacteurs ?» Philippe Sassaigne.
Alors nos réacteurs en moyenne ont un peu plus d'une trentaine d'années, mais certains ont moins de 20 ans dans les 58 réacteurs qu'on exploite aujourd'hui. Là, on vise effectivement une durée de fonctionnement qui aille à 50 ans, voire 60 ans pour nos réacteurs. Tout à l'heure, on parlait des coûts, donc il faut donner quelques valeurs repères, je pense. Hein, donc, y compris avec l'investissement de 50 milliards dont parlait notre auditeur, qui s'étale jusqu'à 2025 hein, pour les investissements dans le nucléaire, on est, et c'est validé par la Cour des comptes, à 55 euros du mégawattheure sur le parc existant, les 58 réacteurs, qui font bien sûr toute la production nucléaire actuelle. Et donc, il faut le comparer avec de l'éolien qui est entre 60 et 70, du solaire qui est aujourd'hui autour de 70, et de l'éolien en mer qui est à 190. Voilà quelques repères qui sont importants sur des productions qui ne provoquent pas, effectivement, de rejet de CO2. Donc, le nucléaire actuel est tout à fait compétitif. Il l'est encore dans les années qui viennent. J'ajouterais que dans quel que soit le pays, et dans un pays comme le nôtre qui est industrialisé, on a besoin d'un mix énergétique où il y ait de la production centralisée et de la production décentralisée. Et donc l'équilibre entre les deux, et la loi de transition énergétique dit rien d'autre que ça, est quelque chose qu'il faut garder dans la durée, de notre point de vue, et avec des solutions qui relèvent des énergies renouvelables et du nucléaire en fonctionnement et en production en base centralisée.
L'énergie nucléaire, 3 fois moins cher que des éoliennes en mer, nous dites-vous. Si on revient au risque, Benjamin Dessus, effectivement, il n'y a pas d'émission de carbone, d'accord. Mais les risques?
Mais les risques sont d'une nature totalement différente. Incommensurable et difficile à discuter, si vous voulez. Le problème du risque nucléaire, de l'accident majeur, est quelque chose qui dépasse l'entendement. Enfin, on ne sait pas comment faire pour résister à ce genre de choses. Donc c'est très difficile de comparer ces risques. Moi je voudrais revenir un instant sur l'histoire du parc rénové, le grand carénage. La Cour des comptes dit que le grand carénage, ça va coûter 100 milliards. Si on le grand carénage total de l'ensemble des centrales, pas jusqu'à 2025, jusqu'à 100 milliards, c'est plus que l'investissement initial du parc nucléaire. Ça a coûté 83 milliards pour le faire la première fois. Et pour le réhabiliter pour 10 ans, ou 20 ans, il va falloir dépenser 100 milliards. Donc vous voyez bien que le coût du nucléaire va être très cher. On a fait 83 milliards pour 40 ans, on refait 100 milliards pour 10 ans. En n'étant pas sûr que ça va marcher parce qu'on a des problèmes avec les générateurs, etc. Donc on prend un risque financier et un risque physique considérable.
Que répond le directeur du parc nucléaire d'EDF, Philippe Sassaigne?
C'est très simple, les 100 milliards de la Cour des comptes prennent en compte tous les investissements courants et non pas le grand carénage, donc on a exactement les mêmes chiffres que la Cour des comptes. Donc le vrai coût du grand carénage, c'est 50 milliards, et après il y a toute la maintenance que l'on fait chaque année qui effectivement a toujours eu le même prix et qui nous coûte 2 à 3 milliards par an, donc voilà, les chiffres sont les mêmes. Et globalement, je redis ce que j'ai dit, c'est que même avec cet investissement-là, la rentabilité de l'allongement de la durée de vie de ces centrales est tout à fait démontrée. J'ajouterais qu'après, en termes d'accident, il faut quand même qu'on se dise aussi les choses. L'accident de référence pour les réacteurs qui sont du type de ceux qu'on exploite en France, c'est celui de Sumail Island aux États-Unis dans les années 70, à la fin des années 70. Et donc, nous avons tiré tout l'enseignement de cet accident, bien sûr de tous les autres qu'on a pu avoir, mais sur ce type de réacteur, cet accident est celui de référence sur lequel il n'y a eu aucune victime, aucun rejet dans l'atmosphère, avec un cœur qui malgré tout a fondu. Donc, je ne dis pas que l'accident ne doit pas être envisagé. Je vous ai expliqué tout à l'heure, au contraire, qu'on faisait tout pour s'y préparer, pour gérer les procédures et pour faire tout ce que l'on doit faire. Ceci étant, les améliorations de sûreté que l'on apporte en permanence à nos réacteurs, et le grand carénage en fait partie, sont de nature effectivement à repousser au maximum le risque. Et si le risque est toujours présent, à le gérer au mieux, dans les meilleures conditions, notre objectif étant notamment qu'en cas d'accident, il ne puisse y avoir aucun rejet qui affecte les populations locales.
Pour les non-spécialistes, et ils sont nombreux, c'est quoi le grand carénage?
Le grand carénage, ce sont des opérations de maintenance lourde qui consistent essentiellement à faire des modifications de sûreté. Certaines sont issues de Fukushima. Sur les 50 milliards dont on parle, il y a une dizaine de milliards de modifications et d'améliorations de sûreté issues du retour d'expérience de Fukushima, et le reste, c'est le remplacement d'un certain nombre de gros composants qui ont besoin d'être remplacés à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans.
On repart au standard où Alain nous appelle de Lyon. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je voulais juste poser une question à monsieur le directeur des centrales. J'ai entendu dire que 50% de la maintenance des centrales nucléaires étaient sous-traitées à des entreprises qui elles-mêmes éventuellement sous-traitaient à d'autres et engageaient des gens en CDD pour des périodes de 6 mois ou de 8 mois. Est-ce que c'est exact ?
Eh bien écoutez Alain, merci de cette question, on va vous répondre, Philippe Sassaigne. 50% de la maintenance sous-traitée.
Oui, c'est l'ordre de grandeur, nous utilisons notamment pendant les arrêts de tranche, donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'on faisait un arrêt de tranche tous les ans ou tous les 18 mois sur nos réacteurs, dans lesquels nous faisons beaucoup d'opérations de maintenance spécialisées, et nous utilisons effectivement des entreprises spécialisées en maintenance, Areva en est une que tout le monde connaît, mais il y a tous les grands groupes français qui travaillent à nos côtés pour faire ces opérations de maintenance, et donc nous utilisons des personnels spécialisés, compétents dans des domaines de maintenance, donc pour faire ces opérations, et ils ont cette capacité à le faire sur les différentes centrales. Un exemple très concret, nous utilisons des soudeurs. Un soudeur, pour être spécialisé, il faut qu'il soude très souvent, et donc c'est pour ça que nous utilisons ces personnels spécialisés que nous n'avons pas forcément chez nous à EDF.
Benjamin Dessus, vous comprenez l'inquiétude à entendre parler de sous-traitance lorsqu'il s'agit de nucléaire ?
Oui, parce que en fait, cette sous-traitance et sous-traitance de sous-traitance risque d'amener à des pertes de compétences et à un danger pour la sûreté. C'est clair que quand EDF avait l'ensemble de la mainmise sur l'affaire et pas seulement la direction, mais la capacité de faire lui-même, on avait plus de chances d'avoir des choses raisonnables. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu, mais vraiment 10 secondes, sur l'histoire du grand carénage. Le grand carénage, il concerne des tas de choses, sauf l'essentiel.
C'est-à-dire ?
La cuve. La cuve, c'est-à-dire la partie principale de la centrale, eh bien, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas y aller. Et elle vieillit. Au bout de 40 ans, elle est moins jeune qu'à 30 ans.
On peut pas y aller pour des raisons techniques, voilà.
Parce que c'est complètement irradié, quoi. On peut pas la changer. Donc, si on a des problèmes de métallurgie qui apparaissent parce que c'est bombardé par des neutrons depuis 40 ans, eh ben, on risque d'avoir une cuve plus fragile. Donc, on prend un risque qui n'est pas négligeable en faisant ces choses-là.
Philippe Sassaigne?
Juste sur deux idées reçues. D'abord, EDF, et depuis le départ, a toujours sous-traité une bonne partie de la maintenance, et de la maintenance spécialisée, j'insiste, parce que nous avons des spécialistes, effectivement, sur ces sujets. Et concernant la cuve, c'est l'endroit le plus contrôlé de la centrale. Et donc, effectivement, c'est un composant qu'on ne peut pas changer, et donc c'est pour ça que c'est l'endroit le plus contrôlé. Et c'est certainement aussi l'endroit qui requiert toute l'attention de l'autorité de sûreté nucléaire, et qui demande beaucoup de contrôle sur le sujet pour s'assurer que la cuve peut continuer à fonctionner pour les années suivantes. Quand on nous autorise, à l'issue d'une visite décennale, de fonctionner pour 10 années de plus, c'est parce que les contrôles, notamment sur la cuve, ont été tout à fait satisfaisants.
On repart au standard, et toujours sur cette question de maintenance. Bonsoir Gildas, vous nous appelez des Hautes-Pyrénées. Suppression judicieuse ou pas, nous demande Gildas. Philippe Sassaigne.
Alors, bonsoir Gildas, vous n'êtes pas très bien renseigné. Nous, on vient d'ajouter depuis 4 ans, 5 ans maintenant, plus 4000 personnes. Donc, dans les effectifs que j'ai le plaisir et l'honneur de manager, nous sommes un peu plus de 23 000, nous étions 19 000 il y a 6 ans. Donc, c'est plus 4000 que nous venons de faire dans les années récentes.
Benjamin Dessus.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et toujours, pour revenir aux questions de contrôle, parce que je vous assure que c'est la grande majorité des questions, et le mot qui revient toujours, c'est suffisant ou pas. Philippe Sassaigne, suffisant ou pas?
Je peux témoigner aussi.
Il y a une inquiétude qui est palpable.
Je peux témoigner de mon expérience, donc un peu plus de 30 ans dans le domaine nucléaire. Nous avons sans arrêt rajouté des contrôles, Donc nous faisons beaucoup plus de contrôles qu'au démarrage, ce qui est normal parce qu'on se pose peut-être plus de questions sur un certain nombre de choses. Donc et au fur et à mesure du retour d'expérience internationale, on va contrôler des choses en plus. C'est ce qu'on fait actuellement sur nos générateurs de vapeur, puisque je crois que la sûreté nucléaire requiert que dès qu'il y a doute, dès qu'il y a questionnement, on aille faire des contrôles supplémentaires et qu'on démontre par ces contrôles qu'il n'y a pas de problème. Dans nos réacteurs, il y a beaucoup de marge prévue à la construction, c'est logique. Et donc notre objectif par les contrôles, c'est de s'assurer que les marges sont toujours présentes et qu'on peut fonctionner en toute sûreté. Donc les contrôles, ça fait partie de notre vie d'exploitant nucléaire, de faire des contrôles et d'en donner le résultat, effectivement, à ceux qui nous contrôlent, l'autorité de sûreté nucléaire.
Je ne sais pas si ce sera suffisant pour assurer nos auditeurs. En tout cas, ça a été dit. Philippe Sassaigne, directeur du parc nucléaire en exploitation d'EDF. Merci beaucoup. Merci infiniment également Benjamin Dessus, ingénieur économiste spécialiste de l'énergie, donc fondateur de l'association Global Chance. Merci à tous les deux.